Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois Jérôme Chantreau qui publie une enquête romanesque à l'histoire d'un fait divers, mais du point de vue de la littérature. Nous visiterons la bibliothèque de Marc Lévy, nous rendrons visite à Stanislas Rigaud, notre libraire, et Sébastien Bordenave nous parlera d'une bande dessinée, de deux même. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Bélazard, quel drôle de titre. En fait, c'est un prénom. Quel drôle de prénom. C'est celui d'un étrange garçon, d'ailleurs, étrange dans le sens fascinant. Et c'est le héros du livre de Jérôme Chantreau, chez Phébus, mais pas un héros de fiction. Voilà comment s'ouvre le livre. Tout est vrai. Je n'aurais jamais quitté ma vie, à 700 km de là, si cela n'avait été qu'une de ces légendes qu'on prête aux enfants singuliers. Je serais resté chez moi, au Pays Basque, où j'étais professeur. Je n'aurais jamais eu l'idée de suivre un mort. Et pourtant, Bélazard est bien mort. En février 2013, il avait 18 ans. Ça s'est passé pendant un contrôle de police. Il a pris une balle dans la tête. C'est lui qui a tiré avec son arme. Donc c'est un suicide, comme l'a dit la police. Eh bien non, dit Jérôme Chantreau, ancien prof de latin de Bélazard, l'auteur du livre qui mène l'enquête. Enfin, d'ailleurs je dis mène l'enquête, pas tout à fait, ou pas seulement. On est entre Philippe Jaénada et Yvan Jablonka, Laetitia. Jérôme Chantreau, bonjour.
Bonjour.
Ce qui vous intéresse, finalement, c'est plus la vie de ce garçon, Bélazard, que les circonstances de sa mort.
Oui, tout à fait. J'ai commencé par enquêter sur un fait divers qui était à la fois passionnant et complètement tragique. Et puis, je me suis aperçu de deux choses au cours de cette enquête. La première, c'est que j'étais pas doué du tout pour enquêter. Voilà, ni journaliste, ni Jaénada, ni Aubenas.
Vous vous en rendez compte dans le bouquin à un moment.
Oui, oui, voilà. Moi, je suis plutôt du genre à ne pas poser de questions à ceux qui ne veulent pas répondre. Donc, c'est pas bien parti pour enquêter. Et puis, bon, j'ai quand même mené une certaine enquête dans les papiers, dans les dossiers que la famille m'a donnés. Mais surtout, ce dont je me suis aperçu, c'est que ce garçon, ce gamin, comme je l'appelle souvent, puisqu'il est mort à 18 ans, je le connaissais un petit peu, mais finalement très très mal. Et c'est dans ces documents, et puis dans l'œuvre qu'il a créée, que j'ai fini par enquêter. Et là, je me sentais beaucoup plus à l'aise, puisque ben, moi, voilà, professeur de lettres, écrivain, j'étais beaucoup plus à l'aise pour enquêter dans une œuvre d'artiste, et donc dans sa vie d'artiste, dans sa création, plutôt que dans sa mort.
On va reprendre depuis le début, mais parce qu'on a commencé par la fin, sa mort. Mais je voudrais d'abord évacuer ce titre et ce prénom, Bélazard, très étrange. Et d'ailleurs, sur sa tombe, il est juste inscrit Bélazard, sans rien de plus. D'où ça vient? Vous l'expliquez dans le livre, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors,
quoi, Bélazard?
Je dis dans le livre que c'est une forme d'ex-voto. C'est-à-dire que c'est son deuxième prénom, imaginé par ses parents pour rendre hommage, plutôt pour remercier de sa naissance miraculeuse.
Voilà. Un bel hasard.
Un bel hasard, voilà. Et donc c'est un mot forgé.
C'est Antoine Bélazard.
Voilà, et il s'appelle Antoine. Et puis, comme vous savez, ces faces 2 qui quelquefois deviennent plus célèbres que la face A, eh bien c'est ce deuxième prénom qui a tout pris, qui s'est gorgé un peu de la personnalité d'Antoine Bélazard Jaouen, jusqu'à devenir son vrai nom, et jusqu'à effectivement être le nom, l'unique, alors nom, prénom, nom de plume, nom d'artiste peut-être, qui va orner sa tombe, ce qui est assez stupéfiant. J'étais sur sa tombe avec sa mère et effectivement, l'absence de patronyme m'a énormément étonné. Mais ça fait partie des nombreuses choses qui m'ont énormément étonné.
Et vous lui dites, et puis elle avait même, c'était même pas posé la question finalement, c'était évident.
Oui, alors moi je pense qu'elle s'était posé la question. Et là aussi, ça fait partie d'un jeu de comme ça entre les parents et moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses très très surprenantes qui parsèment la vie jusqu'à la mort de Bélazard. Et puis les parents, ben, finalement, soit sont habitués à ça, soit font un peu mine de pas y prêter attention. Mais quand même, moi je le dis, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais qu'une personne, même pas un enfant, parte dans l'au-delà sans patronyme. Le patronyme, c'est le sceau, c'est ce qui maintient une personne dans sa famille.
Mais c'est la singularité de ce garçon qui débarque un jour au collège avec une mèche à la Albator, des cuissardes, une sorte de gabardine. Il n'est pas vraiment dans le cadre quand vous le rencontrez, vous.
Non, il n'est absolument pas dans le cadre. Donc, il a 12 ans quand il arrive dans la cour du collège. Il a une grande gabardine en cuir noir, des bottes montantes, un pantalon bouffant, une chemise impossible boutonnée jusqu'en haut, et puis cette mèche noire dont vous avez parlé. Et franchement, quand on le voit débarquer dans la cour du collège comme ça, on connaît les jungles que peuvent être les cours de collège.
Bon courage.
Bon courage. On se dit que ça va être terrible pour lui. Et puis, 15 jours après, alors il n'était peut-être pas devenu un héros, mais une sorte de totem pour tous les autres gamins. Et finalement, tout le monde l'aimait, il rayonnait sur les autres.
Et en fait, il a un côté Augustin Maulne, le grand Maulne. Comme ça, c'est un peu le type qui fait ce qu'il veut. Et il n'est pas non plus désocialisé, c'est pas un ado délinquant, il n'est pas accro aux jeux vidéo. C'est un type qui fascine ses camarades. Il a un côté romanesque.
Très romanesque. Il ressemble à... Pour moi, il ressemble à Tristan Corbière. C'est-à-dire, il ressemble à un poète dandy du 19e siècle.
Maudit.
Alors ça...
On va y venir.
On le saura après. Voilà, une sorte d'élégance de dandy. Il était fasciné par tout ce qui touche à l'histoire. Grand collectionneur autour de la Première Guerre mondiale. Il faut imaginer que, quand je dis ça, il a 15 ans.
C'est pas banal.
Il répare un taxi de la Marne au fer à souder dans le garage de son père. Donc voilà, c'est un être absolument à part. Par exemple, c'est dans le livre. Il nous rendait des devoirs, les devoirs à la maison.
À la Remington.
Taper à la Remington sur des papiers en tête d'une entreprise d'import-export de bananes, de son grand-père qui datait des années 30. Un peu pour cerner le personnage.
Et alors vous, votre premier vrai contact avec lui, même s'il est copain avec votre beau-fils, c'est que vous l'avez en cours de latin. Et qu'est-ce qui se passe avec lui ?
Oui, alors ça, c'est le côté un peu électre de Bélazard. C'est-à-dire qu'il nous met face à nous-mêmes, il nous met face à la vérité. Alors c'était un jour, je faisais cours sur quelque chose d'extrêmement important, peut-être l'ablatif absolu, des choses vraiment qui moi me tenaient à cœur. Et il a 12-13 ans, il ouvre un journal, ostensiblement devant moi. Alors c'est pas du tout, comme vous l'avez dit, un gamin ni insolent, pas du tout un voyou, au contraire, très très bien élevé, avec un très beau vocabulaire, mais il est capable de ce genre d'acte. Il ouvre un journal. Alors évidemment, je le prends très mal. Je le prends comme pour ce que c'est-à-dire une marque d'irrespect. Et le tour monte, on a une petite prise de bec, et puis finalement ça se calme un peu. Je vois quand même que tous les copains sont très intéressés par le personnage et ce qu'il est capable de faire. Et puis ça se finit comme ça. Alors ça se finit même un peu après, puisque je dirais à la mère que s'il est si peu intéressé par le latin, il peut arrêter. Mais quand tous les élèves sont partis, je vois sur sa table le journal qui traîne. Et par curiosité, je vais jeter un coup d'œil. Et il s'agissait d'un journal que je n'ai jamais revu après. Une sorte de particulier à particulier pour les passionnés d'histoire, notamment de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été pour moi une blessure en tant que prof. Et je me suis dit, comment je fais moi, professeur de civilisation latine, pour si peu intéresser un gamin qui a 12-13 ans, visiblement est un passionné d'histoire.
Vous n'avez pas réussi à l'intéresser au latin, mais vous y êtes beaucoup intéressé. À ce Bélazard, on rouvre le dossier dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Jérôme Chantreau, pour Bélazard, chez Phébus, l'enquête, le récit sur la mort et la vie de Bélazard, jeune garçon un peu dandy, poète, mort lors d'un contrôle de police. Il prend une balle, c'est lui qui a tiré, c'est son arme, mais selon Jérôme Chantreau, ce ne serait pas un suicide, comme le dit le rapport de police. Jérôme Chantreau, vous racontez dans le livre comment vous apprenez la mort de Bélazard, vous êtes dans une voiture, un coup de fil à votre femme, on apprend sa mort, donc on vous informe votre beau-fils qui est à l'arrière de la voiture, il y a comme ça un moment assez dramatique. Vous, vous êtes triste, quoi. C'est un gamin qui est mort, mais bon, la vie continue, quoi. Vous n'êtes pas du tout parti pour écrire un livre sur le sujet à ce moment-là.
Absolument pas. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, je le connaissais finalement assez peu. Professeur de latin, c'est 1h30 par semaine dans une seule année. Quand il venait à la maison, c'était un gamin plutôt distant avec les adultes, très proche des enfants, hein, de ses disciples, mais avec les adultes un peu distants. Et puis, il est resté 4 années au Pays Basque, et puis il est revenu chez lui en Bretagne. Et donc, moi, je l'ai complètement perdu de vue, et c'est vrai que l'annonce de sa mort, bon, bah, c'est extrêmement triste, hein, ça a énormément touché mon beau-fils, notamment, bien sûr, mais moi, voilà, bon, bah, c'était comme ça. Et il a fallu 4 années avant que je me décide à écrire.
Vous nous racontez le déclic ?
Alors, le déclic, c'est la mort d'une autre élève, qui s'appelait Dana, et ça a été un constat. Je me suis dit, finalement, voilà, dans une vie de prof, il arrive qu'on perde des élèves. Voilà, ça arrive. 40 ans de métier, alors moi j'en ai 22, mais voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne se fait jamais pour un prof, c'est le deuil. Puisque la vie continue, la vie c'est la classe, et la classe, on ne parle pas de la mort, et voilà. Et finalement, on a comme ça des deuils non faits, qui s'accumulent, 2, 3, 4 dans une carrière. Et Dana est revenue à un moment, alors certainement que j'étais prêt aussi à écouter ce message, mais Dana est morte d'une grave maladie, j'ai marché avec elle sur les chemins de Compostelle, elle était d'une force, d'un courage exceptionnel, elle rayonnait, et je me suis dit, ben oui, elle avait exactement le même courage que Bel-Azhar, la même force, cette même faculté de rayonner, et je me suis dit, voilà, maintenant c'est le moment de m'arrêter, c'est le moment de faire mon deuil, et puis c'est surtout le moment de donner à ces gamins-là, alors j'ai choisi Bel-Azhar.
Mais Dana est aussi dans le livre.
Mais Dana est là, bien présente, c'est pour ça aussi que le livre est dédié aux enfants disparus, leur donner un livre comme un tombeau, cette forme poétique classique, hein, c'est-à-dire non pas s'occuper de la vie, mais s'occuper de l'œuvre, s'occuper de leur redonner un peu de lumière.
Mais pour Bel-Azhar, peut-être ce qui vous intéresse aussi, et c'est pas, il n'y a rien de vulgaire là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui grince, quoi. Il y a quelque chose qui coince dans cette histoire, quoi. Il y a aussi ce récit d'enquête, même si vous allez le laisser tomber au fur et à mesure, mais surtout, il y a une sorte de malédiction autour de cette affaire.
Oui, bien sûr. Au départ, ça a tout d'une histoire formidable à raconter, puisqu'il y a un côté tout en camon. Donc, pour faire vite, il meurt le 12 février 2013 en bas de chez lui, au 13 rue de l'Éternité. Alors voilà, ça c'est des trucs, si j'avais inventé ça, on m'aurait dit c'est un peu trop gros, c'est vraiment c'est des grosses ficelles. Mais c'est la vérité, et la première phrase, c'est bien, tout est vrai. Il rentre chez lui avec un copain, il est minuit, il se fait agresser par une bande de types un peu bourrés, et il sort un pistolet, et avec lequel il tire en l'air pour faire, comme il l'a dit, s'envoler les étourneaux.
Un pistolet de collection de la guerre 14, parce qu'il était collectionneur, et il revenait du stand de tir.
Voilà, il faisait du tir sportif, c'était le garçon le moins violent et le moins belliqueux du monde, et il se destinait à l'école d'armurerie de Liège, une très grande école d'armurerie, c'était un orfèvre. Voilà. Et il portait effectivement sur lui un rubis 7,65, donc un pistolet en dotation des officiers en 1915.
Tous les détails sont importants là.
Tous les détails sont très importants. Et donc ces types-là, qui sont les agresseurs, parce qu'ils commençaient clairement à lui casser la figure. Alors lui, comme certains défenseurs de l'humanité, ne sait pas se battre, mais...
Il encaisse.
Et surtout, il ne connaît pas la peur. C'est un chevalier, donc 1 contre 8, ça lui va. Et voilà. Donc ces types-là s'en vont, et puis ils croisent un gendarme, et il lui dit plutôt, voilà, là-haut, en haut de la côte, là, il y a un type qui nous tire dessus. Donc il est minuit, imaginez la réaction des gendarmes, bien sûr ils se précipitent. Il y a un contrôle qui va se dérouler, et ce contrôle se passe bien jusqu'à un moment où on sait que Bel-Azhar part en courant. Ma théorie, c'est qu'il il veut jeter son arme dans un fourré. Parce qu'il sait que l'école d'armurerie va lui porter...
Avec
lui
un casier judiciaire, c'est terminé.
Voilà, c'est terminé. Un geste un peu idiot, comme on peut très bien en faire à 18 ans. Il court, un des gendarmes le ceinture... on sait qu'il tombe contre la voiture de police. Je pense que, voilà, dans la mêlée, il y a une torsion du bras. Il avait déjà sorti son pistolet, le coup part et le tue.
Ça, on ne peut pas le prouver. Mais...
On ne peut pas le prouver, mais on est à peu près d'accord sur ce déroulé des faits.
Là, est-il, c'est qu'on veut faire avancer les choses, que ce n'est pas si simple que ça. Et les parents, la mère notamment, essayent de contacter un grand avocat qui accepte de se charger de l'affaire.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve sur Balthazar une feuille dans laquelle il écrit qu'il veut, si jamais il lui arrive malheur...
Je porte une arme sur moi, je connais les dangers qui sont liés au port d'armes, je sais ce qu'il pourrait arriver, je déclare que s'il doit m'arriver malheur, ce sera par arme à feu, de la manière la plus noble, et que mes parents ne devront pas être tenus pour responsables.
C'est ça.
Parce que la justice montre aux parents en disant, voyez, c'est assez
suicide.
Clair. Quoi.
Voilà, c'est un suicide. Or, si on lit bien, non, c'est la phrase très lyrique d'un personnage qui adore le lyrisme, mais c'est absolument pas une lettre dans laquelle il dit qu'il va se suicider. Donc, c'est la double peine pour les parents. Leur fils unique est mort, et en plus, on leur dit qu'il s'est suicidé. Effectivement, la famille connaît Olivier Messner. Et la mère de Balthazar va le voir. En 20 minutes, Messner dit « Je prends l'affaire pro bono, il y a quelque chose qui ne va pas ». Un mois plus tard, on retrouve le corps de Messner qui flotte au large de son île, dans le golfe du Morbihan. Et là, pour le coup, c'est un suicide. L'affaire est récupérée par le cabinet qui s'occupe des dossiers Messner, plus ou moins, voilà, avec plus ou moins d'intérêt. Ça vivote comme ça pendant 2 ans. Entre-temps, un des 3 gendarmes se pend. Le copain de Balthazar est interné en hôpital psychiatrique, donc témoignage irrecevable. Et enfin, en 2015, l'affaire tombe dans les mains d'un jeune avocat, Valentin Ribet.
Incroyable.
Un type extrêmement doué. 26 ans, il a déjà intégré un grand cabinet d'avocats. Et là, il relance la plainte de Messner. Il obtient une nouvelle reconstitution qui se passe le 1er novembre 2015. L'espoir renaît complètement dans le camp de la famille de Balthazar.
Et 2 semaines plus tard
ce mélomane décide d'emmener sa fiancée à un concert de métal. C'est au Bataclan et il prend une balle dans la tête.
Complètement dingue cette histoire. Ouais. Ce que sont en train de se dire les auditeurs, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la vie de Balthazar. On y revient dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est Livre continue toujours avec Jérôme Chantreau pour Balthazar, chez Phébus. Balthazar, Antoine Balthazar, c'est le nom d'un jeune homme tué lors d'un contrôle de police en 2013. Il a pris une balle dans la tête, une balle de son arme, et c'est lui qui a tiré, mais ce n'était pas un suicide, comme le dit la police, selon Jérôme Chantreau. Vous êtes toujours avec nous. Il y a un moment, on va laisser tomber l'enquête, et vous le dites vous-même dans le livre, l'enquête, je l'ai abandonnée depuis longtemps, je veux dire sa mort, elle ne m'intéresse plus, c'est vivant que je le veux. Et effectivement, c'est autant une enquête sur les circonstances du drame que sur la vie de Balthazar, la vie assez fascinante de Balthazar. Mais pour accéder à cette vie, à cette biographie, il a fallu interroger des proches. Et puis parfois, c'est assez intime, les questions que vous posez. Comment ça s'est passé, cette enquête, notamment avec les parents de Balthazar ?
Eh bien, c'est...
Il a fallu qu'ils acceptent.
Alors, d'abord, ça passait par là. Donc, j'ai fait un mail, une sorte de cahier des charges de mon livre. Évidemment, j'ai pensé d'ailleurs longtemps l'avoir complètement dépassé. Puis finalement, non. Je pense que je suis assez, 3 heures et demie après, assez proche de ça. Puisque déjà, dans ce mail, j'expliquais que c'était la vie qui allait m'intéresser, beaucoup plus que la mort. Et je ne savais finalement pas grand-chose de Balthazar. Et donc, pendant 3 ans et demi, je vais aller plusieurs fois chez les parents, chez le père, chez la mère. Et ils vont me donner, évidemment, tous les documents, surtout me donner accès à l'œuvre. Et parce que je me rends compte, et c'est pour ça qu'il y a un changement dans mon enquête, c'est que je me rends compte que Balthazar était un artiste qui avait peint des dizaines, des centaines de toiles, qui sculptait, qui façonnait, un plasticien, aussi un collectionneur. Voilà, je me suis rendu compte qu'il avait, à 18 ans, trouvé le temps de concevoir peut-être une œuvre, déjà. Il y a quelque chose de rimbaldien, on parlait des poètes du 19e siècle. C'est assez fascinant. Donc voilà, c'est une enquête dans les maisons, sur les lieux. Ça, c'est très très important pour moi dans tous les livres que j'écris. Ce que disent les lieux des personnages. Là, ce sont des maisons, c'est aussi un champ. C'est la Bretagne. Il y a aussi quelque chose dans l'âme bretonne qu'il a fallu aller chercher. Et c'est cet ensemble de choses qui m'ont permis de comprendre que j'avais là, effectivement, une vie et notamment une œuvre beaucoup plus intéressante encore que cette affaire tout en camon de sa mort.
Maintenant que vous le dites, Balthazar, il a un côté en coup, un peu. Mmh. Et parfois, on flirte avec ces légendes-là dans le livre. Et plus on avance, plus on entre dans une sorte de, pas de rêve, mais dans l'univers de Bélazar, en fait, qui est un truc un peu particulier, quoi, qui est une sorte de zone artistique étrange. Et vous-même, vous finissez par y entrer, même par votre écriture.
Il y a, dans la vie de Bélazar, et jusqu'à sa mort, pour moi, deux forces qui s'affrontent. Il y a une force de destruction qui est à l'œuvre. Et on l'a bien vu avec sa mort, on le voit même après, quelque chose d'assez terrifiant, une malédiction. Et puis, il y a quelque chose, une autre force, une force de création qui est là aussi à l'œuvre, mais à travers ses doigts de créateur, d'artiste. Et puis aussi, cette force que j'ai reçue, celle qui m'a poussé à écrire ce livre, à aller jusqu'au bout de ce livre, qui n'a pas été sans mal. Et puis finalement, moi, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aimerais qu'on ressente, c'est que ce livre finit par une bénédiction. Il y a quelque chose de béni chez lui, effectivement. D'un côté, l'encou, la mort bretonne, mais aussi quelque chose d'extraordinairement lumineux.
Et justement, vous venez de le dire à demi-mot, mais votre vie à vous a été aussi impactée par ce livre.
Oui, j'ai commencé à l'écrire.
C'est votre troisième.
C'est mon troisième. Livre. Les deux premiers étaient un peu autobiographiques, surtout le deuxième, et je m'étais vraiment fait le serment de plus parler de moi dans le troisième, c'était hors de question. Donc j'avais inventé un personnage de prof parfait, donc assez éloigné de moi, et alors absolument terne, vraiment ridiculement plat. Et je l'avais presque voulu comme ça, sauf que ça marche pas.
Ça va avec la perfection en général.
Voilà. Ouais, exactement. Et j'avais écrit 400 pages, il y avait quelque chose qui bloquait, et ce qui bloquait, c'était moi, enfin ce faux moi-là. Voilà. Et je me suis donc aperçu qu'il fallait changer quelque chose. Alors, changer quelque chose, c'était d'abord mettre 200 pages à la poubelle, ça c'est un peu douloureux, et accepter de m'y mettre aussi, de me mettre aussi sur le grill. Parce que Bélazar était là, les parents étaient là, tout le monde était à nu, si je puis dire. Il manquait moi. Et donc, il fallait que j'y aille aussi pour donner cet exemple, parce que je pense que Bélazar, c'est un être qui, même encore aujourd'hui, change des vies. Et on le voit encore à l'œuvre, presque tous les jours avec mon éditrice. Il fallait que je dise que Bélazar était en train de changer ma vie. Alors, c'est un divorce, c'est accepter de quitter chez soi, sa maison, son confort. Je me suis retrouvé dans un petit meublé, loin de tout ce que j'avais bâti, mais avec une certaine certitude au fond de moi.
Et votre éditeur qui vous lâche, pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait pour que... Bon, alors, c'est pas forcément lié qu'au livre, mais le divorce, l'éditeur qui s'en va, etc. Vous qui habitez même un moment dans la chambre de Bélazar, est-ce qu'il y a un moment où, en fait, vous sortez de la route, quoi ?
Alors, habiter dans la chambre de Bélazar, j'ai dormi dans la chambre de Bélazar. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'était une expérience extrêmement puissante et pour tout dire, effrayante au départ. Hein, voilà. C'était une chambre, disons, intense. Mais... S'agissant de ma vie, oui, il y a 13 mois, j'avais à peu près tout perdu de ma vie d'avant. Jusqu'à l'éditeur, alors là, l'éditeur, c'est pas mon éditrice qui était responsable de ça, c'est le principe économique de l'après premier confinement. Voilà, on dit, un grand groupe, que je ne nommerai pas, l'âge du lest, et puis moi je suis parti avec l'eau du bain, sans qu'on ait lu mon manuscrit. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvé nu, sans rien. Et le message de Bélazar, vous voyez, force de destruction, force de création, c'est que juste après, tout ce que j'ai retrouvé était 100 fois supérieur.
Mais vous devenez un peu obsédé aussi par cette histoire.
Oui, totalement obsédé, parce que je lui ai résisté pendant longtemps à cette histoire. Et quand j'ai compris qu'il fallait lâcher prise si on veut, accepter de perdre aussi ce que j'étais pour renaître, oui, là ça devient un peu obsédant, surtout que entre-temps, alors notamment avec le père de Balthazar, il commençait à me donner des directions, des objets, les choses. Et je me rendais compte petit à petit que tout correspondait, qu'on était là, comme si j'étais entré dans un monde, le monde de Balthazar, alors son monde artistique peut-être, mais d'une grande cohérence, une sorte de cosmogonie qu'il aurait laissé là, avec un jeu de pistes. Et je recueillais les signes sur ce jeu de pistes au fur et à mesure.
Et c'est très clair, dans le livre, il y a un moment, il y a une sorte de bascule, comme quand on arrive en haut du début du manège, là, des montagnes russes, et on tombe comme ça à toute allure dans l'univers de Balthazar, et en fait dans votre obsession aussi à vous. Et ça donne ce livre inédit, très singulier, fascinant, Balthazar chez Phébus. Restez avec nous, Jérôme Chantreau, dans un instant, nous partons visiter les livres de Marc Lévy. A tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Jérôme Chantreau pour Balthazar. Chez Phébus, nous quittons provisoirement le studio pour visiter la bibliothèque de Marc Lévy. Il publie une bande dessinée, l'Agence des Invisibles, chez Phileas, une équipe chargée de retrouver des personnes disparues. J'en ai profité donc pour savoir ce que lisait Marc Lévy. New York, là où il habite, c'était un peu loin, alors nous nous sommes donné rendez-vous à la librairie, ici, à Paris. Ici, librairie. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Alors, d'habitude, je commence par merci de nous recevoir chez vous, mais vous habitez New York. Oui. Et donc, je serais bien allé visiter votre bibliothèque, mais j'ai demandé à la patronne d'Europe 1 qui m'a dit moyen pour le budget. Mais ça tombe bien, vous êtes à Paris. Et donc, exceptionnellement, on est dans une librairie pour évoquer vos livres. D'abord, juste, il faudrait vous prêter un petit exercice. Comme on ne peut pas aller chez vous, est-ce que vous pouvez nous décrire votre bibliothèque à New York? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres? Est-ce que vous en débarrassez au fur et à mesure? Est-ce que vous êtes un collectionneur compulsif?
Non, il y a les deux, en fait. Il y a beaucoup de livres. Je ne suis pas un collectionneur compulsif, mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec les livres qui fait qu'on a du mal on a même du mal à les donner. Enfin, le seul moyen de vider sa bibliothèque de temps en temps pour la régénérer, c'est justement de faire ce vrai cadeau du fond du cœur en disant « Allez, je vais te le donner. » Et en même temps, il arrive souvent de que je le rachète derrière quand même parce que ça m'embête de plus l'avoir. C'est ça qu'il y a de beau, je trouve, dans l'attachement très particulier qu'on a aux livres.
Mais c'est dans le salon, les livres? C'est dans la chambre? C'est dans le couloir?
Il y en a
partout.
Il y en a partout. Il y en a dans les chambres, il y en a dans les... c'est ça que... Enfin, je trouve qu'il y a une chose qui est très joyeuse avec le livre. C'est la rencontre inattendue. En fait, si on ne met des livres que dans une bibliothèque, ça veut dire que on va vers la bibliothèque, on les regarde. D'abord, les bibliothèques ne sont pas, ne sont pas extensibles de façon illimitée. Et en fait, il y a un côté très joyeux à avoir des livres comme ça qui vivent partout dans la maison et dont on peut saisir, lire quelques pages, les reprendre. Tiens, je vais le relire. Donc, il y en a partout. Il y a une mini bibliothèque dans la cage d'escalier, qui est d'ailleurs assez grande. J'ai une bibliothèque dans la cuisine.
Ah, c'est bien ça.
Ouais,
mais de romans ou de bouquins de cuisine?
Les deux. En fait, même les trois, parce qu'il y a des romans, il y a des bouquins de cuisine et il y a des bouquins de cuisine écrits par des romanciers. j'ai notamment le dictionnaire de la cuisine de Balzac.
Alors, quand même, dans votre bibliothèque, on pourrait trouver, parce que vous nous en avez ramené.
On trouve.
Quelques romans que j'ai là, et notamment un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kent Aruf, qui est très connu aux États-Unis et même mondialement, mais on dit Kent Aruf, on n'est pas sûr de trouver un interlocuteur tout de suite qui l'a lu. Il a notamment écrit un bouquin formidable qui s'appelle Nos âmes la nuit, qui est une histoire d'amour de personnes d'un certain âge, très belle. Et là, vous avez choisi Le Chant des Plaines. Est-ce que c'était pour Kent Aruf ou pour un roman en particulier?
D'abord, Kent Aruf, évidemment, j'ai tous les livres de Kent Aruf. Kent Aruf, on le marie souvent à un autre grand romancier américain qui est Yeats. Non qu'ils aient la même plume, mais finalement, ils ont le même sujet commun dans leur œuvre. Et ils l'ont tous deux remarquablement bien décrit, qui est celui... De la vraie Amérique, pas celle de carte postale, l'Amérique qui se situe entre New York et San Francisco, et non pas à New York et San Francisco. Et même quand ils emmènent leurs lecteurs dans des grandes villes, ils les emmènent dans les quartiers
périphériques.
Non, dans les quartiers, non, parce qu'on peut se retrouver à Brooklyn, on peut se retrouver même sur la 5e avenue, mais on va se retrouver dans les quartiers où...
Moyens, quoi.
Non, ou, enfin, j'allais dire avec la population qui fait vraiment l'Amérique. Mais comment vous dire, il y a une... L'Amérique, c'est un pays continent avec une diversité, mais surtout une dureté incroyable et en même temps une puissance sentimentale très forte. C'est extrêmement difficile à décrire. Et c'est pour ça que moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à l'intérieur et autour de ce pays. J'y vis, je le suis et c'est un pays qui me fascine pour sa culture, sa diversité. Et donc voilà, alors Arif, si on a envie de comprendre ce qu'est l'Amérique profonde, ce qu'est l'Amérique tout court, comment elle s'est construite, hein, c'est un immense romancier. C'est vraiment un immense romancier. Il est pour moi un Victor Hugo de l'Amérique. Mais c'est un portraitiste de l'âme de l'Amérique profonde qui est extraordinaire et toujours avec des personnages qui vous bouleversent et dont on n'arrive pas à se défaire ni à quitter une fois le roman terminé.
Regardez ça, juste pour décrire, enfin, je vous dis ça, dans l'après-midi, ils étaient assis sur leur vélo, sur le trottoir de Chicago Street, juste de l'autre côté, la regardant. Une petite maison en stuc pastel, à peine plus grande qu'un cottage, dressée derrière trois ormes bas qui poussaient dans le jardin de devant. L'un des arbres avec une longue larme de sève qui coulait de son tronc là où une branche avait été arrachée. Un trottoir menait à la porte d'entrée. C'était une petite maison de location, un niveau et pas de sous-sol. Dans ce pays où la plupart des maisons avaient des sous-sols ou des caves, elle était d'un vert pâle délavé avec un toit gris en bardeaux. Et même s'il savait qu'elle était à l'intérieur, la maison avait l'air vide et inhabitée. Derrière les fenêtres, il n'y avait aucun mouvement.
Vous voyez ouais. La puissance du portrait triste, enfin, tout ce qu'il nous raconte en quelques lignes.
C'est simple et poétique, quoi.
C'est...
Et ça raconte tout un quartier.
Oui, et puis en même temps, la solitude de ces deux gamins. Et puis après, on va rencontrer ce prof qui essaie de les sortir de là et tous les interdits qui seront franchis. Enfin bon, c'était encore un roman que je vous recommande vivement. Je pourrais vous en dire des pages entières.
Vous m'avez amené un autre livre, Rien à voir.
Rien à voir.
Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde, dont Sandrine Babu, la libraire, nous a parlé il y a quelques semaines. C'est amusant.
Ah, c'est drôle.
Et pourquoi vous l'avez choisi, celui-là ?
C'est un livre que j'avais découvert au moment où il est sorti. Le livre date de, on va pas dire de bêtises, mais c'est toujours intéressant, 2018. Je suis d'origine turque et j'ai j'ai un passé familial en Turquie. L'évolution de la situation politique en Turquie m'intéresse énormément. Et en même temps... je crois que quand on est écrivain, quand on est personne de lettres, quand on est enseignant de lettres, quand on est journaliste de lettres, il y a une chose dont on parle peu, mais qui doit, je crois, tous nous fédérer, c'est la liberté accordée à cette expression. Et on n'en parle pas beaucoup de cette liberté. Et elle est extrêmement compromise aujourd'hui. Nous, en France, on a ce défaut terrible de ne pas regarder assez le monde et de considérer... avec une certaine,
naïveté,
arrogance, que tout ce que nous avons acquis est immuable. Et parmi cela, la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, il y a 25% de la population mondiale qui vit en démocratie. Alors, je ne suis pas du tout contre le combat qu'on mène pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est extrêmement important de mener aussi un combat pour la liberté d'expression.
Et le roman
d'Ahmet Altan, c'est extrêmement intéressant parce que voilà un grand homme de lettres, journaliste, qui est en Turquie et qui déplaît au pouvoir. Et ce roman raconte le moment où on vient l'arrêter et où on l'emmène en voiture de police au quatrième sous-sol du commissariat central. Et ce roman raconte la période d'incarcération de cet homme qui s'en va convaincu qu'il ne reverra plus jamais le monde, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ce qui va le sauver finalement, c'est sa dignité et son humour et en même temps ses valeurs dans la solitude de son incarcération. Il y a quelque chose qu'on a du mal à imaginer quand on n'y réfléchit pas, c'est... on parlera de Prévert après parce que ça me fait penser à la même phrase qu'il est dur le bruit de l'œuf cassé sur le comptoir d'étain quand il résonne dans la tête de l'homme qui a faim. Mais on n'imagine pas ce qui se passe dans la tête d'un homme qui passe en quelques secondes de son salon à la cellule, enfin une cellule de prison où il va rester entre deux interrogatoires où on le tabasse, et qui se dit je ne reverrai plus jamais le monde et je ne reverrai plus jamais les miens. C'est vraiment un livre qui m'a marqué pour ça. Voilà.
Vous avez aussi rapporté une BD, parce que vous publiez une BD, je l'ai dit tout à l'heure.
Non, j'ai rapporté une BD, pas parce que je
publie
une BD.
Non, mais justement, non, mais c'est intéressant qu'on en parle.
Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que...
C'est dans... le chant des striges. Ouais. Et alors, pourquoi et le chant des striges?
Parce que...
Saison 2, en plus.
Parce que vous m'avez demandé au déboté, bah, tenez, citez une BD qui vous a marqué, et le chant des striges, c'est une BD que... Voilà, que quand j'ai lu le chant des... Il y a des moments où, quand vous lisez comme ça certaines BD, le scénario vous dit, tiens, voilà, quelque chose de vraiment incroyablement nouveau, quelque chose qui sort du, enfin, vous voyez, du quotidien. Et le chant des striges, ça a fait partie de cette collection d'albums où j'attendais absolument impatiemment la sortie du prochain album et où je trouvais que le scénario, l'histoire était absolument incroyable. C'est sombre et lumineux, comment vous dire, c'est Les striges sont des êtres à part. Les striges ont un pouvoir à part. Et comme très souvent dans ce genre d'histoire, et particulièrement en BD...
C'est fantastique, en tout cas.
Se sert des... Oui, c'est un fantastique, mais qui est ancré dans le réel. C'est fantastique comme on pourrait comme 13 peut être fantastique, parce qu'à partir du moment où il a perdu la mémoire, il devient l'instrument des autres. Et selon celui qui l'utilise et qui utilise sa capacité et sa puissance, le récit... évolue. Donc voilà, écoutez, lisez-le, c'est une formidable BD.
On parlait de Prévert tout à l'heure, et de Paroles, son recueil. Qu'est-ce qui vous touche tant? Pourquoi vous vouliez absolument qu'on parle de ce
Prévert, je me souviens, j'ai 11 ans, je crois. Et tous les matins, sur le chemin de l'école, il y a, à l'époque, on appelait ça des clochards. Il y a un clochard qui est là dans la rue. Et moi, je comprends pas. Je me dis, pourquoi il y a un monsieur qui est assis dans la rue et qui demande à manger, je me dis, c'est pas... Et bien sûr, quand nous, en sortant de la cantine, on apportait à ce monsieur à manger, il était extrêmement gentil. Et puis, je commence à interroger mon père. Mon père me donne parole de Prévert. Il me dit, lis. Et qu'il est dur le bruit de l'œuf cassé, qu'il se brise sur le comptoir d'étain quand il résonne dans la tête de l'homme qui a faim. Et le poème de Prévert allume l'étincelle de ma conscience sociale. C'est-à-dire qu'un livre, c'est une vraie rencontre. C'est comme rencontrer une vraie personne.
Et vous connaissez des poèmes de Prévert par cœur, alors? D'après ce que je constate.
Bah, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est un livre... Non, on ne va pas faire ça. Je suis trop pudique, mais...
Allez, un petit verre.
Oh, ben oui, enfin, tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes et tu les mets en vase. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les regardes et tu les attrapes et tu les mets en cage. Alors, quand tu dis que tu m'aimes, j'ai un peu peur.
C'était un dernier verre pour la route. Merci beaucoup, Marc Lévy.
Merci à vous.
À bientôt, la prochaine fois à New York.
Et je rappelle le titre de la bande dessinée de Marc Lévy, L'Agence des Invisibles, c'est chez Phileas. Et chez vous, Jérôme Chantreau, comment vous rangez vos livres, vous qui êtes latiniste et tout ça? Vous avez toute une collection de livres, de classiques, de lettres classiques, ou alors vous vous débarrassez des livres au fur et à mesure? Comment ça se passe?
Alors, j'ai autant de bibliothèques que j'ai de chez moi, tout d'abord. Alors, c'est pas parce que je suis immensément riche et que j'ai plusieurs maisons, mais disons qu'il y a, comme j'ai expliqué, j'ai quitté ma maison. Alors, j'ai une bibliothèque dans un garde-meuble, j'ai une bibliothèque dans mon petit appartement maintenant, j'ai une bibliothèque dans la maison familiale en Mayenne. Voilà, et donc c'est un peu partout, aucun rangement, absolument aucun rangement, et je garde tous les livres. Voilà, avec une sorte de fétichisme totalement assumé.
Dans un instant, toujours des livres dans l'antre de Stanislas Rigaud, notre libraire. À tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue toujours avec Jérôme Chantreau pour Bélazard. Chez Phébus, nous partons visiter Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine à Paris. Bonjour Stanislas.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Vous avez préparé deux romans aujourd'hui un classique, un prix Nobel, même Mario Vargas Llosa. Et puis Pierre Darcagnan, chez Anne Carrière, ça s'appelle Le rapport chinois et la couverture est très chouette. Vous commencez par lequel ?
On va commencer par le classique, Mario Vargas Llosa, qui revient avec un livre formidable chez Gallimard qui s'appelle Temps sauvage. Alors, ça fait partie de ces auteurs, en fait, on est habitué à la qualité. Mais là, vrai grand coup de cœur. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le pendant effectivement du légendaire La fête au bouc. Et là, nous allons plonger dans l'histoire plus que sulfureuse du Guatemala, avec une galerie de personnages et un roman choral magnifique. En fait, c'est brillant, c'est tendu comme le meilleur des polars, et Leroy va être jaloux. Et en même temps, il y a une qualité d'écriture, ces personnages, on découvre... Alors bon, je vous avouerai que moi, l'histoire de la United Fruit, comment les Américains ont noyauté le Guatemala, bon, c'est quelque chose qui est extrêmement vague pour moi. Hein.
C'est ça ce qu'il raconte.
En fait, le point de départ, c'est grosso modo l'élection successive d'un président et d'un autre qui essaye de réformer le Guatemala. Et au travers de réformes, il décide grosso modo de effectivement les impôts, notamment les impôts sur les grosses sociétés, la United Fruit, qui est la grande société américaine, qui ne paye pas d'impôts. Résultat, c'est la guerre. En fait, alors, je vous simplifie vraiment beaucoup, beaucoup l'histoire. Hein. Mais c'est assez impressionnant parce qu'il y a des scènes totalement buesques où l'ambassadeur américain envoyé sur place pour un peu muscler l'affaire, écoute le président guatémalien qui dit « mais je ne suis pas communiste en fait, enfin c'est pas l'idée, en fait moi les communistes je ne sais pas qui c'est en fait, il y en a trois dans le pays » et en fait les États-Unis réussissent à construire autour de ce pays une image d'infiltrants communistes qui vont dynamiter tout le continent, ça, et même la presse bienveillante, le New York Times, etc., croit tout ça, en fait. Et donc, on se retrouve avec ce pays qui est, entre guillemets, accusé par la communauté internationale de communisme, alors que ce n'est pas du tout la situation, mais qui va le payer très cher malgré tout, en fait. Mais au travers de ce grand mouvement géopolitique, Vargas Llosa explique ça au travers du destin de petits personnages, plus ou moins grands, une femme, une espèce de Matahari extraordinaire, Miss Guatemala, l'inoubliable. Il y a forcément le président, il y a un type qui infiltre, qui est le bras droit de Trujillo. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui donnent un formidable roman. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout censé avoir un pied dans l'histoire guatémaltèque pour comprendre ce que c'est, puisque derrière tout ça, c'est une fois encore la danse éternelle du pouvoir et de ses affreuses chaussettes.
Mario Vargas Llosa, Temps sauvage, c'est chez Gallimard et j'ai hâte de la fin des masques parce qu'on entend le frotte-frotte du masque sur la barbe de Stanislas Rigaud. Et en plus, sans son masque, il a une barbe incroyablement belle. Alors, le rapport chinois maintenant avec ce type avec une cravate et une chemise qui est en train de tomber d'on ne sait où.
Très gros coup de cœur de la rentrée. Premier roman, auteur donc inconnu, c'est le livre, à mon avis déjà, pour moi, le plus drôle de cette rentrée. Alors, c'est déjà rare en ce moment, les livres drôles. Alors, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Tuc Dual. Tuc Dual, après un entretien d'embauche pour le moins loufoque, obtient un poste chez Michard et Associés. Alors, Tuc Dual, il est très content, c'est très bien payé, 7000 euros par mois. Et donc, il se retrouve dans l'immeuble un petit peu étrange de Michard et Associés, où il n'y a visiblement quand même pas grand monde à l'étage qui lui est dédié. Et il se retrouve avec son bureau, son ordinateur, sa journée, et il ne se passe rien. Une journée passe, une semaine passe, un mois passe, rien ne se passe. Un an passe, et on ne lui demande rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Arrive un super, super consultant qui un jour lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et Tuc Dual répond « Écoutez, j'étais embauché. » Alors ça tombe bien, parce que j'ai un rapport à faire sur la Chine, vous avez 3 jours. Et le type se barre. J'en dis pas plus. C'est très, très drôle. Ça a tout du roman culte. En fait, une qualité d'écriture, une histoire qui vous mène par le bout du nez, parce que la farce va grossir, grossir, grossir. Et au moment où vous dites « on est au maximum de la farce, mais il me reste la moitié du livre », bim, la farce se rétracte et le livre devient un formidable livre de société, en fait. Ça se dévore comme, là encore, un polar de première classe. C'est très, très drôle. Moi, quand je vois avec les clients avec qui j'ai déjà conseillé, les gens reviennent et on se fait des phrases. C'est limite le livre, vous avez envie de refaire des scènes, en fait. Il faut lire absolument Le rapport chinois.
Le rapport chinois de Pierre Darcagnan, c'est chez Anne Carrière. Et vous êtes le deuxième libraire de La Voix et Livre à nous le conseiller, donc c'est vraiment un auteur à suivre, Pierre Darcagnan, premier roman, Le rapport chinois chez Anne Carrière. Merci beaucoup Stan.
Merci Nicolas, à bientôt.
De retour en studio, Jérôme Chantreau est toujours avec nous et voilà Sébastien Bordenave et sa BD. Et ses BD, bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Quelle BD nous proposez-vous aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, deux BD dans deux styles différents, une sorte de manga à la Quentin Tarantino et une BD qui suspend le temps, c'est le dernier Rupert et Mulot.
Et on commence avec, je l'ai entre les mains, Chen, les enfants perdus.
Oui, Chen, C-H-E-N, c'est un manga apocalyptique à mi-chemin entre La Servante Écarlate et Mad Max. On est en 2089, en Chine, il y a une crise énergétique, les frontières sont fermées, les nationalistes sont au pouvoir, c'est la famine à cause du dérèglement climatique, la population féminine est à 1%, du coup on commence à importer des femmes des pays voisins. Bref, ambiance très pesante, on est loin de Martine fait des cookies. Vous voyez ? Pour vous la faire courte, Chen, c'est l'histoire donc de Chen qui recherche sa petite sœur, Piao, enlevée par une horde de motards sans foi ni loi. Il va partir enquêter dans le milieu de la pègre et de la prostitution. Le scénario est riche en rebondissements et en contre-pied. Le style graphique est tantôt violent, tantôt émouvant, toujours réussi. Et le bonus, c'est que la question du genre va s'inviter de façon surprenante et intelligente dans le récit. Et le bonus du bonus, c'est qu'à la fin de la BD, regardez Nicolas, on trouve un cahier graphique.
Pour
les
brouillons, quoi.
Exactement, des storyboards, des esquisses, des recherches dessinées sur les personnages. Bref, c'est une BD énergique, rude, qui secoue, ne cherchez pas de contrepétrie, il n'y en a pas.
C'est vrai que je feuillette et ça bouge pas mal. Exactement. Vous en avez une deuxième de bande dessinée beaucoup plus reposante, celle-là j'ai l'impression, et plus poétique peut-être.
Oui, oui, c'est la dernière œuvre de Rupert et Mulot. Alors Rupert et Mulot, c'est Jérôme Mulot et Florent Rupert. Les deux dessinent, les deux scénarisent, c'est les Daft Punk de la BD un peu. Leur dernière œuvre s'appelle La part merveilleuse, partie 1, Les mains d'Orsay. Alors d'un point de vue strictement personnel, je trouve dommage les histoires en plusieurs tomes. Si on a aimé le 1, on est frustré à la fin et on se sent obligé d'acheter le 2. Si on n'a pas aimé le 1, on se dit que peut-être le 2 sera mieux. Et c'est vrai que parfois le 2 est mieux. Regardez Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et des fois, c'est moins pire que le 3. Regardez Les Bronzés Amis pour la vie. Bref, fermons la parenthèse. La part merveilleuse raconte l'histoire d'Orsay. Il vit dans un petit village champêtre et depuis quelques années, vivent de façon amicale et passive avec les humains, les toutes. Alors un toute, c'est une créature inoffensive qui ressemble à une grosse méduse qui bouge de façon vaporeuse. Il y en a de toutes les couleurs, transparentes ou non. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés, ni quand est-ce qu'ils vont repartir. Un peu comme des artistes de K-pop. Quoi qu'il en soit...
Ouais, je disais plus contemplatif, mais il y a aussi des scènes un peu d'action.
Ah là, aussi, tout à fait. Quoi qu'il en soit, avec les toutes, on est en France. Il y a donc les pro-toutes et les anti-toutes. Mmh. Les anti-toutes sont inquiets car les toutes ont des comportements de plus en plus agressifs. Les pro-toutes répondent que c'est parce qu'on les a embêtées. La police, comme souvent, tire dessus et réfléchit après. Et la coup de théâtre, Orsay, donc le héros, se fait mordre par un toute. Et vous savez quoi ? Ses mains se toutifient. Elles prennent des formes étranges, se développent des pouvoirs étonnants qu'il va découvrir petit à petit. On entre dans un univers à la Rupert et Mulot. On a l'impression d'être dans un rêve, d'abord agréable, puis qui bascule vers le malaisant. C'est extrêmement réussi, comme souvent avec Rupert et Mulot, qui évoque sans trop dévoiler, tout en étant généreux en imaginaire. Bref, c'est ébouriffant d'originalité. Ébouriffant, c'est ébouriffant et bluffant.
Ébouriffant.
Exactement.
Ouais, ok, parfait, j'aime bien.
On a inventé un mot.
Merci Sébastien, vous nous rappelez les titres des deux bandes dessinées.
Donc Chen, C-H-E-N de Ducoudray, Dodé et Kim, publié chez Glénat. Et La part merveilleuse chez Dargo, c'est la dernière BD de Rupert et Mulot. Je vous laisse avec une citation d'un personnage de BD. J'ai inventé une lampe de poche à l'énergie solaire, elle n'a qu'un défaut, elle ne marche qu'en plein soleil. Gaston Lagaffe.
Oui, ça lui ressemble bien. Voilà. Merci beaucoup Sébastien et merci à vous Jérôme Chantreau.
Merci beaucoup.
Je rappelle Bélazar, c'est chez Phébus. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Pachinski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.